Voyons. Cette semaine, Jérôme Clément rencontre Fabienne Servan-Schreiber. Ce soir, la télévision, métier ou engagement.
Bonjour Fabienne Servan-Schreiber.
Bonjour Jérôme Clément.
Alors nous nous retrouvons toujours chez vous pour cette troisième émission de la semaine. Durant la première, nous avons parlé de votre vie de petite fille, de la bourgeoisie aisée, que vous nous avez raconté. Et hier, d'Henri Weber, l'homme de votre vie, qui nous a quittés malheureusement en mars dernier. Et de cet amour fou qui vous a emporté toute votre vie. Mais votre vie se limite pas du tout à ça, puisque nous allons parler aujourd'hui de votre vie professionnelle, que nous avons évoquée rapidement hier, parsemant vos amours avec Henri Weber. Quand vous avez quitté le lycée, quand vous avez quitté les études, quand vous avez commencé à vous éloigner de votre famille, vous n'étiez pas du tout parti pour faire de la télévision, pour faire du cinéma. Ça vous est venu comment, cette idée-là ?
Moi, je suis partie travailler à l'âge de 20 ans parce que je voulais m'en aller, je voulais me construire, je voulais être indépendante et je voulais rien devoir à ma famille. Donc j'ai d'abord été un an professeur à l'école active bilingue, car je connaissais très bien la famille de Jeannine Manuel qui a créé cette école. J'étais très liée à son fils et ce sont des gens qui m'ont accueillie avec énormément de générosité et de chaleur et d'amitié. J'ai été professeur d'histoire, géo et français, et j'ai d'ailleurs succédé à un brillant personnage qui s'appelle Frédéric Mitterrand.
Ah oui.
Et qui était professeur juste avant moi. Et puis, j'avais 20 ans, mes élèves avaient 15 ans, je ne me sentais pas peut-être assez sûre de moi, et je suis rentrée petite assistante d'Henri de Turenne, qui était un ami de ma mère, je dois dire, et qui m'a mis à l'essai d'abord avant de m'engager.
Mais pourquoi Henri de Turenne, vous auriez pu aller dans une maison d'édition ou dans un autre métier?
Exact. En fait, j'avais envie d'être journaliste et je me le suis interdite. Parce que il y avait tellement de journalistes dans cette famille Servan-Schreiber, je me suis dit, attends, c'est une banalité folle, tu peux pas faire ça. Donc je suis allée vers les images. Et quelque part, c'est quand même une certaine manière de parler du monde. Voilà. Et donc j'ai été petite assistante d'Henri de Turenne, dont je tiens à préciser que c'était un homme absolument exceptionnel. Et que c'est une chance folle d'avoir démarré avec quelqu'un de cette élégance et cette intelligence et de ce métier.
Alors Henri de Turenne, pour les auditeurs qui ne le savent pas, Fabienne Servan-Schreiber, il a fait beaucoup de l'histoire.
C'est un très grand journaliste.
C'est une grande bataille du passé.
Voilà, ça a été un très grand journaliste, un journaliste de guerre dans les années 50 et 60. Mmh. Et puis après, il a fait un tas de séries d'émissions. Et puis après, il a travaillé à l'Express. Voilà, c'est un journaliste. Et moi, je travaillais sur des émissions qui s'appelaient C'était hier, qui étaient sur toute l'histoire de l'après-guerre. C'était d'ailleurs assez drôle parce que toutes les équipes étaient gauchistes, évidemment, on est dans les années 70. Et à chaque fois que Henri, dans ses émissions, voulait critiquer ou la Chine ou Moscou, on était là à se concerter dans les couloirs en disant « on peut pas lui laisser dire des choses aussi réac ». Évidemment, il nous regardait en nous disant « les petits chéris, vous verrez plus tard que j'avais raison ». Et évidemment, ces analyses étaient justes, mais c'était une époque très amusante pour ça. Voilà. Après ça, j'ai franchi toutes les étapes pour me faire ma place dans ce milieu. Et je dois surtout parler de ce que c'était que le machisme dans ce milieu. Parce que je crois que les jeunes femmes d'aujourd'hui ne se rendent pas compte.
Vous avez travaillé avec Claude Berry,
j'ai travaillé chez Frédéric Rossif, j'ai travaillé chez Vincent Mal. Enfin, je suis rentrée dans le milieu du cinéma, petite assistante. Mais
très machiste.
Ah oui, très. Alors d'abord, je peux vous raconter une scène. Je déjeune un jour avec un grand producteur de la place de Paris. J'étais deuxième assistante. Et il me dit, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Et je dis, je veux être première assistante et réalisatrice. Et il me dit, mais Fabienne, dans le cinéma, les femmes sont monteuses et scriptes. Donc c'était impossible de faire autre chose. Évidemment, ce genre de phrase, ça vous donne un sacré coup de pied et un coup d'énergie, si je puis dire. Voilà. Et puis surtout, quand j'arrivais sur un plateau et que je disais où est-ce que je mets ma caméra, l'opérateur me disait « est-ce que t'as mis un soutien-gorge aujourd'hui ?» Quoi. C'était comme ça. Nous n'étions, une jeune femme à cette époque, n'était absolument vue que comme, en gros, un objet sexuel, quoi. Vraiment, même dans le métier. Ça, je tiens à le dire parce que les temps ont beaucoup changé. Heureusement. Alors, c'est pas fini. Aujourd'hui, on a d'autres bagarres à mener avec MeToo et autres. Mais c'était une société quand même encore très très machiste, surtout ces milieux du cinéma. Voilà. Donc, je me suis battue, j'ai fait de l'assistanat et après j'ai été réalisatrice de documentaires.
Votre premier documentaire, qu'est-ce que
Mon
c'est ?
Mon premier documentaire, c'est un petit film sur les soldats de plomb. Et puis après, j'ai fait une série chez Frédéric Rossif qui s'appelait Les chemins de la vie sur des expériences pédagogiques dans le monde, pour Antenne 2, qui sont passées pendant des années et des années. Et puis j'ai créé une société avec deux garçons formidables, Pierre Devers, qui malheureusement est mort depuis et qui a été un grand producteur, et puis Pierre Bofti, qui était un jeune opérateur très doué, qui était le fils de Jean Bofti, qui a été un très grand chef opérateur, de Claude Sautet, de plein d'immenses cinéastes. Et on a créé notre société, on a commencé à produire des films.
Et on avait votre idée, c'était documentaire ou c'était...
Alors on a commencé par les documentaires, puisque moi je savais les faire, les fabriquer. Mmh. Donc au moins j'étais à l'aise là-dedans. Et puis petit à petit, bon ça c'était les années 82-83, hein. Le premier film que Ciné TV a produit, c'était pour les 10 ans du coup d'État chilien. On est allé au Chili sans autorisation de tournage, les deux Pierre et moi. Carmen Castillo, qui était une réfugiée chilienne, qui d'ailleurs avait été sauvée par une campagne internationale à laquelle on avait participé, anonymement sur les marchés en distribuant des tracts, était le co-auteur de ce film. On est allé voir ce qui se passait au Chili 10 ans après le coup d'État. Et ça a été le premier film qu'a produit Ciné TV, et après on les a démultipliés.
Donc c'était en 83.
83 exactement.
Et le film a été diffusé sur
TF1 à l'époque. Sur TF1. Et le film a été vendu dans énormément de pays, parce que c'est vrai que c'était assez rare qu'une équipe aille tourner sur place. Et après ça, on a multiplié les documentaires, et puis on est passé à la fiction, et on est passé au cinéma, et on est passé à la captation du spectacle vivant, à des opérations spéciales, à des magazines. Bon, maintenant, j'ai une société qui fait énormément de choses différentes.
Mais là, vous allez presque un peu vite, parce que finalement, ça s'est pas passé tout seul. Ça a été vous construire la société, la diversifier.
Exactement.
Il y a eu des combats à la fois professionnels, mais aussi, vous parlez du machisme, ça n'a pas été si facile de vous imposer comme femme à la tête d'une société de télévision qui est devenue une des plus importantes de la place de Paris. Enfin, une importante en tout cas.
Enfin, une moyenne, mais une durable, ce qui est déjà pas mal d'avoir duré.
Oui, oui.
c'est vrai que on sent quand même que... Alors ça va mieux, hein, je fais des critiques, mais je sais aussi que ça évolue beaucoup et que ça évolue bien. Et que récemment, il y a eu des femmes présidentes de chaînes, donc c'est bien. Mais c'est vrai que j'ai l'habitude de dire qu'une femme qui se bat est une emmerdeuse et une femme en colère est une hystérique. Alors qu'un homme qui se bat et un homme en colère est un chef. C'est ça la différence, fondamentalement. Et ces mentalités existent encore. Il faut vraiment continuer à exiger et à combattre. Ça, c'est pas fini.
C'est pour ça que vous avez voulu prendre des responsabilités dans les syndicats professionnels, dans les organismes
Oui, parce que c'est une manière d'être informé sur ce qui se passe et de défendre ce que nous faisons. Nous faisons de la production indépendante, dans un système d'ailleurs français qui est très envié à l'étranger, mais qui est régulièrement battu en brèche par des sénateurs ou des députés qui tout à coup ont envie de redonner tout le pouvoir aux diffuseurs, en gros, pour aller vite. On est dans des conflits assez souvent, et il faut faire entendre notre voix et notre singularité, et il faut défendre ce qu'on appelle la création française qui vient de cette production indépendante. Donc, à plusieurs reprises, j'ai été très investie. Ça a commencé en l'an 2000, où on avait fait les états généraux de la création audiovisuelle, où on avait quand même mis 1200 personnes dans le TNP. Et d'ailleurs, juste après, il y a eu les décrets TASCA pour répondre à nos inquiétudes. Après ça, on s'est beaucoup battu en 2008, lorsque le président Sarkozy a décidé de changer le mode de nomination des présidents de chaîne publique. Et on a eu très, très peur pour la création. Il y a eu plusieurs épisodes comme ça, très vifs.
Là, oui, là, vous êtes engagé de façon très, très forte pour défendre le service public et une certaine conception de la télévision.
Exactement.
Alors, c'est quoi cette conception de la
télévision? Une conception de la télévision publique, parce que la télévision publique doit être différente des télévisions privées. Et pour cause, c'est un gros budget de l'État, et ce sont les gens qui payent, donc en fin de compte, c'est comme s'ils payaient un abonnement.
Oui, mais
ils ont envie d'être contents.
Différentes comment, Fabienne?
Différentes par plus d'exigences en matière de connaissances, de culture, de programmes, d'innovation, de programmes nouveaux, avec d'ailleurs un divertissement qui est très important, mais qui devrait être différent aussi de celui des chaînes privées. Moi, j'ai toujours défendu ça. Alors, finalement, aujourd'hui, les spécificités de la télévision publique sont surtout la présence du documentaire, puisqu'il existe très très peu sur les chaînes privées, sauf un peu Canal+. Et puis, la fiction aussi doit être différente de celle que l'on trouve sur les chaînes privées. D'ailleurs, ils le font. Là, je ne critique pas. En fait, je critique parce que je sais qu'on peut aller plus loin, tout en disant qu'on a une très belle télévision publique. Et je parle surtout de France Télévisions, Arte étant un objet à part, puisqu'il est vraiment, j'allais dire, très protégé par le traité franco-allemand, et que la spécificité d'Arte est acquise, et elle est d'ailleurs très brillante et très appréciée.
Mais alors, sur les 1500 heures que vous avez produites, ce serait parti comment entre les documentaires et la fiction ?
Oh, il y a certainement numériquement plus de documentaires, bien sûr. Mais en même temps, les budgets de la fiction sont plus importants. Mais j'ai fait davantage de documentaires dans ma longue vie, c'est vrai.
Alors, quels sont ceux qui vous ont le plus marqué? C'est difficile de faire des choix, parce que je pense que pour chacun, vous êtes
oui, vos mais, enfants. Mais il y a des belles histoires quand même à raconter.
Oui, il y a des belles histoires
à raconter. Par exemple, pour
Fabienne Savant-Schreiber.
Pour le 100e anniversaire de la création du cinéma... Donc on est en 1995, arrive un jour à mon bureau un monsieur, j'allais dire un peu barbu, un peu poilu, qui arrive de l'Institut Lumière et qui me dit, voilà madame, nous sommes en train de réhabiliter la caméra des Frères Lumière et j'ai une idée, on aimerait faire pour le 100e anniversaire du cinéma, on aimerait donner la caméra Lumière aux cinéastes d'aujourd'hui. Pour qu'ils tournent dans les mêmes conditions, c'est-à-dire manuellement, sans zoom, sans éclairage, sans son direct, etc. Et nous étions au mois de janvier et l'anniversaire était en décembre. Donc je lui dis, mais attendez, tous les budgets sont dépensés, comment voulez-vous qu'on fasse tout ça ? Mais madame, non seulement il faut réhabiliter la caméra, mais il faut refaire la pellicule qui rentre dans la caméra. Et là, j'y ai cru et je suis allée le vendre et à Canal+ et à Arte. Et on a fait un film où on a produit David Lynch, Spike Lee, des metteurs en scène extraordinaires. Enfin, on a eu 40 metteurs en scène. Il faudrait que je vous donne la liste. J'aurais dû la préparer. Bon, je suis très fière de ce film. Je sais qu'il circule énormément dans les universités américaines. Je sais que Thierry Frémaux l'aime beaucoup. Et finalement, le soir du mois de décembre 1995, on a fait une grande projection au Trocadéro. Avec beaucoup de ces cinéastes pour commémorer, honorer ces débuts du cinéma. Et puis,
Il y a Fatou Lamalienne qui est aussi...
Fatou Lamalienne est une sacrée histoire.
Et une histoire qui a marqué aussi un peu.
C'est une histoire qui a marqué. C'est Daniel Vigne qui est venu me voir un jour avec un article de Libé qui m'a dit « Regarde, il y a une jeune fille française mais d'origine africaine qui... a porté plainte contre ses parents parce qu'ils l'ont mariée de force, ce qui est dans leur culture. » Et dans leur tradition, et on en a fait un téléfilm unitaire au début, qui a fait 8 millions de téléspectateurs à l'époque, mais c'est la première fois qu'on montrait une famille de gens de noirs de peau, je sais plus comment on peut dire aujourd'hui, voilà, en prime time à France 2. Et je vais vous dire, ils avaient un petit peu la trouille dans la chaîne, hein, et ça a très très bien marché, et ça a été après extrêmement reconnu. Je me suis battue, beaucoup beaucoup battue pour la présence des minorités à l'écran. Ça a été vraiment un de mes combats. J'avais commencé dans les années 90 avec un sitcom qui s'appelait Sixième Gauche, un deuxième qui s'appelait Fruits et Légumes, où on montrait deux familles, l'une d'origine gauloise et l'autre d'origine maghrébine, et ont montré toutes leurs aventures quotidiennes, parce que mon analyse est depuis longtemps, et ça n'est pas terminé, et vous le savez, c'est que nous n'avons pas mis suffisamment les gens issus des minorités sur les écrans de nos chaînes de télévision.
Vous avez l'impression que ça change maintenant quand même ?
Un petit peu. Un peu. Encore pas suffisamment. Mmh. Si vous regardez les présentateurs, les actrices, il y a encore beaucoup de travail à faire, mais au moins c'est sur la bonne voie. Et puis, il y a aussi un autre film dont je suis fière, qui est, vous vous souvenez peut-être, en 2005, à Clichy-sous-Bois, il y a trois jeunes garçons qui sont poursuivis par la police et qui courent vers un grand chantier d'EDF et qui, malheureusement, deux d'entre eux meurent électrocutés. Ça a déclenché le feu dans toutes les banlieues de France, l'embrasement. Ça a été un mouvement d'une extrême violence. Et Il se trouve que je connaissais Jean-Pierre Mignard, l'avocat de ses familles, qui a écrit un livre. Donc je me suis précipitée sur le livre, je me suis demandé qu'est-ce qu'on peut en faire. Je voulais en faire ou un documentaire ou un film de cinéma ou une fiction. Finalement, on a fait une fiction. Je suis d'ailleurs allée voir un monsieur qui s'appelle Jérôme Clément, qui à l'époque dirigeait Arte.
C'est une belle aventure qu'on a vécue ensemble.
Voilà, et on l'a fait très vite parce qu'il y avait les élections. Il fallait le faire avant les élections. On a finalement, entre le moment où j'ai acheté les droits du livre et le moment où j'ai livré le film, on a mis 6 mois, ce qui est extraordinaire dans nos métiers. Et je suis vraiment très très fière de ce film, qui d'ailleurs était pas du tout manichéen. Il s'agissait pas de dire du mal de la police, il s'agissait de montrer les difficultés quotidiennes, au contraire, de la police dans ces banlieues où il manque de moyens, de ces familles aussi qui sont pas suffisamment considérées. Enfin, je suis contente d'avoir fait ce film. J'aime bien faire des choses engagées, c'est vrai. Je pense que c'est utile dans mon métier.
Oui.
Nous essayons dans nos productions d'être ancrés dans la société d'aujourd'hui. Donc récemment, on a par exemple fait une grande soirée dont le thème était le libre accès des gamins, des enfants, au porno sur Internet. On a fait la fiction en prime time, après le documentaire, après il y avait un débat, et on a même fait des modules pédagogiques qui circulent dans les écoles et qui sont sur les plateformes éducatives. Donc ça, c'est des choses qui nous passionnent, bien évidemment. Et puis, j'ai fait beaucoup de choses autour de la lutte anti-djihad, avec un film sur les revenantes, les femmes qui reviennent de là-bas. Après, j'ai fait un film sur les enfants, des filles qui sont parties faire le djihad et ces enfants qui sont complètement innocents et qui sont dans des camps épouvantables. Donc voilà, j'essaye toujours, on essaye avec mes équipes, de faire des films qui participent du débat public, c'est sûr.
Et c'est vrai. Et puis, il y a eu les ponts de Sarajevo aussi que vous avez...
Oui, il y a eu les ponts de Sarajevo.
Là, vous êtes engagé aussi beaucoup dans
c'est une grosse coproduction avec 7 pays coproducteurs, 14 metteurs en scène de toute l'Europe, aux côtés de Jean-Michel Frodon. On n'a pas eu un sou de l'Europe d'ailleurs, mais enfin c'est comme ça, c'est des choses qui arrivent.
Ce grand projet, ça raconte quoi ?
Alors, les ponts de Sarajevo, c'est un film de cinéma que nous avons produit en 2014, à l'occasion du centenaire du début de la guerre de 14, avec la mission du centenaire qui était dirigée par Joseph Zimet, on est allé chercher 14 metteurs en scène européens, dont le plus célèbre est d'ailleurs Jean-Luc Godard, et on leur a demandé, avec Jean-Michel Frodon qui était directeur artistique, de nous raconter à leur manière, par une série de courts-métrages, quelles étaient leurs visions de la guerre de 14-18. Donc on a eu des choses extrêmement variées, faites par des grands cinéastes, et on est allé au Festival de Cannes cette année-là, donc ça a été une aventure très très lourde, puisqu'il faut porter à bout de bras 14 metteurs en scène plus 7 coproducteurs. Voilà, donc c'est un film très particulier, très cinéphilique, hein, mais on voulait, comme on avait fait à Sarajevo, une opération qui était Sarajevo, Centre culturel de l'Europe, on avait appelé ça Sarajevo, Cœur de l'Europe, avec plein d'expositions, de concerts, de manifestations artistiques, il fallait qu'il y ait le film. Et on a été très contents de le faire.
Mais au départ, c'est donc l'assassinat de l'archiduc à Sarajevo qui a déclenché la guerre de 14.
Exactement, il y a un court-métrage d'ailleurs qui le raconte. Et puis après ça, chacun a évoqué des choses différentes jusqu'à aujourd'hui.
Jusqu'à la guerre des Balkans. Oui, jusqu'à la guerre des Balkans d'aujourd'hui.
Exactement, ça va jusqu'à la guerre des Balkans. Et puis, pour parler d'Europe, nous venons de réussir, grâce à mes équipes, moi j'ai rien fait, une très jolie fiction qui s'appelle Parlement, qui raconte, parce que, étant donné l'importance que l'Europe a à mes yeux, et puis j'ai vécu quand même 10 ans avec un député européen, je voyais bien que les chaînes de télévision ne parlaient pas assez d'Europe, et que du coup le public, les citoyens ne vont pas voter aux élections européennes. Donc si vous voulez les familiariser avec l'Europe, il faut leur parler de l'Europe, il faut leur montrer l'Europe, il faut leur raconter des histoires. Donc j'ai absolument voulu faire une fiction sur le Parlement européen pour familiariser le public, donc une comédie, puisqu'on va pas faire des choses, c'est plus facile d'accès. Et grâce à Noé Debré, on a écrit une comédie très réussie, qu'on a réussi à monter. Donc là, on va partir pour la deuxième saison. C'est France Télévisions qui l'a financé en partie, parce qu'il a fallu aller chercher de l'argent partout en Europe. Mais ça, c'est des choses dont je suis fière, parce qu'elles sont d'abord réussies, et ensuite, elles sont utiles. Là, il y a des papiers dans toute l'Europe sur ma série. C'est formidable. Et on va continuer.
Mais alors, vous avez l'impression que ça a changé aujourd'hui, la télévision ? Que l'arrivée des plateformes, le numérique modifie à la fois Les conditions de la production, la ligne éditoriale, est-ce que c'est plus facile, plus difficile? Comment vous voyez les choses aujourd'hui?
Pour enfoncer des portes ouvertes, on est dans un immense changement. D'abord parce que les habitudes de consommation de la télévision ne se font plus par l'écran de télévision, mais comme vous le savez, sur les téléphones et sur les ordinateurs. Donc déjà, ça change énormément. Et ensuite, l'arrivée des plateformes aussi est immense. Alors, il y a un autre phénomène qui est d'une gravité absolue, qui sont les fake news. Les fake news, les complotismes, les chaînes d'infos, dont certaines racontent n'importe quoi. La parole est égale entre quelqu'un qui dit des mensonges et quelqu'un qui dit des choses vraies. Donc, pour moi, le rôle de la télévision publique et de la radio publique n'a jamais été aussi important.
C'est la mission de service public.
Voilà, parce que finalement, c'est un média référent. Vous avez des médias partisans et des médias manipulateurs. Et il y a des médias référents. Et télévision et radio publique doivent être des références pour le grand public. Et c'est un enjeu démocratique. Je trouve que c'est une chose extrêmement importante. Je le dis avec mes pauvres mots, mais c'est un vrai sujet sur lequel il faut être vigilant. Il faut travailler énormément.
Est-ce que c'est suffisamment pris en compte aujourd'hui?
Écoutez, il y a des prises de conscience quand même. Je pense qu'il y a des dirigeants qui sont au courant. Et puis, si vous voulez, ce que j'ai toujours vécu, et depuis maintenant de longues, longues années, c'est d'ailleurs ce que Bruno Patino dit dans son livre, ça n'est pas l'audience qui compte, c'est l'impact. Entre un documentaire qui fait peut-être que 1,5 million de téléspectateurs, mais dont tout le monde parle le lendemain matin, et qui a appris des choses aux gens, et qui a éveillé les consciences, c'est plus important qu'une fiction où on a eu encore un meurtre pour savoir qui est-ce qui a finalement découpé la jeune fille en morceaux. Donc ça, c'est une notion qui commence un petit peu à rentrer, et je crois qu'elle est fondamentale.
Et la télévision publique a évolué dans ce domaine. Vous pensez qu'elle elle peut encore aller plus loin? Doit aller plus loin.
Voilà.
Surtout dans une époque menacée par le populisme et par les...
Exactement. Alors, ce qui a aussi évolué, c'est la place des femmes. Et ça, on le doit beaucoup à Delphine Ernotte, parce que elle a exigé qu'on mette beaucoup plus de femmes dans les débats, dans les présentations, dans les fictions. Heureusement, ça bouge, mais il y a toujours du travail.
Oui, Fabienne Servan-Schreiber, vous parliez tout à l'heure de votre combat pour les minorités, toutes les minorités, mais enfin, le combat pour les femmes, alors je n'ose pas dire que c'est une minorité, parce que c'est la moitié de l'humanité, mais je veux dire, ça a été aussi un de vos engagements majeurs.
Oui.
Mais pas seulement d'ailleurs à l'antenne, mais aussi dans votre entreprise, je voyais les chiffres là, il y a 5 hommes pour 30 femmes.
Ah oui, alors...
ça m'a amusé de voir ça.
Ça, c'est l'histoire de Ciné-TV. À une époque, il y avait 3 hommes pour à peu près 20 femmes, et encore, je crois qu'à une époque, il y avait un seul homme. Maintenant, on est une trentaine de permanents et il y a 5 hommes. Oui, effectivement, j'ai toujours travaillé avec des femmes, toujours. Ouais. Parce que je les trouve formidables, je vais vous dire. D'abord, elles sont extrêmement bosseuses. Elles ont moins d'égo que les hommes, de manière générale, évidemment, vous pouvez tomber sur... je parle pas de... Du coup, comme le métier de producteur, c'est de mettre les autres en valeur, puisque c'est pas nous qui faisons les films, nous faisons en sorte que les films se fassent, et ils sont signés par des auteurs, je trouve que les femmes jouent bien ce rôle.
Pourtant, vous avez créé votre société avec 2 hommes.
Mais... Oui, mais on s'est vite séparés. Amicalement, mais on s'est séparés.
Vous vous demandez qu'est-ce qui vous a intéressé le plus, mais une autre question que je voulais vous poser, c'est qu'est-ce qui vous a déçu le plus?
Dans ma vie professionnelle?
Oui, dans ma vie professionnelle.
Bon, il y a beaucoup de choses à dire dans les déceptions. Il y a quelquefois d'abord des gens qui ne sont pas à leur place dans nos interlocuteurs. Bon, mais ça, on va pas revenir là-dessus. Et après, ce qui a peut-être été difficile, c'est la longueur de ces combats. Parce que finalement, quand vous regardez ces combats pour la présence des minorités, ça a 30 ans, quoi. Enfin, moi, j'ai commencé il y a 30 ans et j'étais déjà là-dessus. Et même la définition de la télévision publique, le rôle de la télévision publique. Moi, j'ai toujours été très admirative de Radio France. Je pense que la qualité et l'identité de chaque chaîne depuis des années, c'est un groupe qui... Bon, il y a peut-être plein de défauts et plein d'histoires, mais c'est quand même un groupe magnifique, le groupe Radio France. Pourquoi le groupe France Télévisions n'a pas complètement cette qualité-là? Voilà, il peut y arriver, et en même temps, et je répète, c'est quand même une très belle télévision. Donc, je critique, mais je soutiens. Je suis nuancée, mais combative.
Ça, c'est le combat professionnel aussi, le combat de l'USPA, l'Union syndicale des producteurs audiovisuels, dont vous avez été présidente,
vice-présidente longtemps. Et je continue. Mais oui, parce que si vous voulez, en réalité, le milieu politique connaît très peu la télévision. Ils regardent pas, ils n'ont pas le temps. On a toujours dit de façon caricaturale, les hommes politiques ne s'intéressent à la télévision que pour savoir s'ils viennent au journal de France 3 Régions ou que quand ils en ont la parole. Bon, c'est un petit peu vrai. Il y a, peu d'entre eux se sont intéressés à ce qu'on appelle la création et l'utilité de ces organes très très importants dans la vie citoyenne.
Et vous regardez beaucoup de séries ?
Un peu, pas autant que mes équipes qui regardent absolument tout, mais j'en regarde évidemment, oui.
Qu'est-ce qui vous a plu ?
Récemment ?
Oui.
Ah, il y a eu deux séries formidables, Califat, qui est absolument extraordinaire, et puis Unorthodox, qu'ont fait les Israéliens, qui sont aussi très très intéressants. Puis il y en a beaucoup.
Et qu'est-ce que vous auriez envie de faire aujourd'hui ? Allez, on va lancer un appel. Vous auriez envie de faire quoi comme projet ? Qu'est-ce qui
suis en train de faire quelque chose.
Quel est votre rêve ou votre
alors,
souhait ?
Alors, mon rêve, je vais vous dire.
Voilà, si vous
je vais vous dire deux choses. Voilà. Je vais vous dire d'abord.
Profitez-en, parce qu'on est en
antenne. On est en train de faire un film sur la Commune de Paris. Je suis extrêmement contente de le faire. Il est très audacieux sur le plan artistique. C'est l'adaptation de trois livres qui ont été écrits par Raphaël Messian, qui raconte l'histoire de la Commune que à travers les gravures de l'époque. Avec évidemment des personnages qui ont existé, une immense recherche historique par derrière. Nous sommes en train d'animer ces gravures et de faire un film de 90 minutes qui raconte cette histoire méconnue et très importante, et dramatique évidemment. Après, mon rêve depuis toujours, ça a été de faire Alexandre Dumas et la Révolution française, puisqu'il a écrit plein de romans, que ce soit La Comtesse de Charny, Le Collier de la Reine, Ange Pitou et Joseph Balsamo.
C'est plutôt avant quand même Alexandre Dumas.
C'est avant la Révolution, mais il y a aussi Le Chevalier de Maison Rouge. Mais bon, les personnages de la Révolution sont là, c'est extrêmement romanesque, il y a des femmes, en plus tout est construit autour des femmes, mais je n'ai pas encore réussi.
En fiction, vous voulez
dire? En fiction, en série. Et je vais vous dire, l'Italie s'y intéresse, l'Allemagne s'y intéresse, et pour l'instant, je n'ai pas de partenaire français. On verra.
Bon, bah écoutez, on fait un appel au peuple.
Oui.
Bon, bah on va vous souhaiter bonne chance.
Bien sûr, j'espère que votre appel va être entendu.
Le suivi des faits, absolument.
Au peuple des décideurs, précisons-le.
Merci Fabien Servan-Schreiber, à demain.
Merci Clément, à demain.
Et demain, la suite de cette rencontre de Jérôme Clément avec Fabienne Servan-Schreiber. À voix nue, réalisation Vincent Deck, prise de son Georges Thau, attaché de production Daphné Abgral, coordination Sandrine Trainer. À voix nue s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.